France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse Weekend. Et ce matin, quelques idées pour partir en week-end ou pendant ces vacances de printemps, en compagnie de la journaliste Sandrine Mercier, du rédacteur en chef de Théma.archi, David Habitant, avec l'autrice Adeline Baldacchino et avec Yann Chouquet du réseau ICI. Et vous, n'hésitez pas à mettre en valeur votre région en nous donnant envie d'y aller au 01 45 24 7000, sans oublier l'appli à Radio France. Bonjour Daniel Jerkens.
Bonjour.
Complètement jetlaguée, elle est là avec nous en dépit d'une vie trépidante à travers le monde, directrice de la rédaction du magazine Elle à Table. Quelle recette pourra-t-on partager ce week-end?
Alors on s'est dit qu'on allait prendre une recette légère et très printanière, un minestrone aux ravioles, pesto et légumes verts.
On s'est dit, j'ai dit, je vous ai imposé la recette.
Vous êtes le maître, Ali.
Bonjour Christine Lappé, journaliste indépendante et autrice de ces livres qui nous font du bien. Quel sera votre plaisir littéraire tout à l'heure?
Un plaisir un peu gothique et légèrement inquiétant, mais enfin ça va vous dépayser, je peux vous le dire.
Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Honorable professeur de philo dans la vraie vie, quel est le menu de votre chronique tout à l'heure?
Eh bien une chronique d'utilité publique, comment survivre au groupe WhatsApp.
Oh là là, vaste programme. Bonjour Guillemette Audicino.
Bonjour Ali.
Chef de la rubrique cinéma dans Télérama, qui deviendra notre ami cette semaine?
Eh bien, quelqu'un qui prouve quand même que quand on se déplace à la campagne, faut faire gaffe. Hein.
Bonjour Julie Neveu.
Bonjour Ali.
Maîtresse de conférence en linguistique à la Sorbonne, au menu de votre chronique avec la langue.
Eh bien, on va voyager aussi, mais à l'intérieur du français, ou plutôt des français, dans le temps et dans l'espace.
Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rébéi.
Marseille, c'est la deuxième ville de France, mais la première côté soleil.
Les Landes, la côte landaise, ce sont des plages de sable fin à l'infini.
Vous avez en tête son accent chantant, son club de foot évidemment, et peut-être même l'Aioli qu'on mange sur le Vieux-Port.
106 km sans interruption, des dunes sauvages et des vagues mythiques pour les surfeurs.
Mais moi, je vais vous donner envie de découvrir une autre facette de Marseille. Celle des petites rues bouillonnantes et des grandes artères bien propres, loin des clichés. Celle de ce qu'on appelle ici les quartiers-villages. Parce que c'est là où l'histoire et le tempérament de la ville se ressentent le plus.
Parce que si on s'éloigne un tout petit peu, il y a un endroit incroyable. Une rivière et une forêt qu'on surnomme la petite Amazonie landaise. Bienvenue dans Partir.
Bienvenue dans Partir.
Dans les Landes, à la découverte d'un petit bout d'Amazonie.
Marseille, des petites rues loin des clichés.
Extrait du podcast Partir du réseau ICI. Bonjour Adeline Baldacchino.
Bonjour Ali.
Vous êtes écrivaine, magistrate à la Cour des comptes, grande voyageuse. Vous avez notamment publié Micro-jubilation, chronique de la joie voyageuse aux éditions Rhubarbe. Bonjour Sandrine Mercier.
Bonjour à tous.
Rédactrice en chef de la revue AR, c'est-à-dire Aller-Retour, ça ne veut pas dire Ali Rébé, je le précise. En couverture, c'est quoi en couverture c'est cet animal?
C'est une vache des Highlands. Ah. Elle est complètement ébouriffée.
Un peu comme moi.
Ça décoiffe.
Bonjour David Habitant.
Bonjour Ali.
Rédacteur en chef de Théma.archi sur les réseaux sociaux. C'est quoi Théma.archi?
Théma.archi, c'est un média en ligne. On parle d'architecture, des villes, du patrimoine. On fait plein de vidéos chaque semaine.
Et on vous retrouvera en quotidienne cet été sur France Inter.
Oui.
Hein, bon, on n'en dit pas plus. Avec nous également Yann Chouquet, bonjour.
Bonjour Ali.
Directeur adjoint d'ICI, anciennement France Bleu, le média de proximité composé de 44 locales. Alors, vous, c'était notre ancien directeur des programmes. Vous avez le droit de le vanner. Hein.
Aujourd'hui, voilà.
Vous avez le droit de le vanner.
Allez-y.
Il n'a aucun pouvoir sur nous, donc on peut y aller. Alors Yann Chouquet, vous avez eu la très bonne idée de lancer un podcast qui s'appelle donc Partir, on vient d'en entendre un extrait. C'est une collection de guides audio pour nous aider à préparer nos futures escapades partout en France. Et franchement, c'est très bien fait. C'est un poil trop court pour moi, mais il faut frustrer l'auditeur. Mais c'est très bien fait, franchement.
Vous en voulez toujours plus, je vous connais.
Qu'est-ce qu'on y entend exactement dans Partir ?
Partir, c'est un programme qui est fabriqué par des gens qui savent de quoi ils parlent, puisque c'est les journalistes et les animateurs des 44 locales du réseau ICI qui partagent leur coup de cœur. Et quoi de mieux que les conseils d'un ami pour déterminer le lieu où on va aller se balader. Par exemple, vous, vous me parlez souvent de l'endroit où vous...
Exactement.
Voilà, vous m'en parliez souvent et vous m'en parlez avec passion. Et là, c'est ce qu'on propose aux auditeurs, c'est de découvrir...
Et en moins de 15 minutes, un lieu qui vaut le détour, hors des sentiers battus, et puis une activité à tester.
Exactement. Une activité à tester, par exemple, on parlait de... Vous parliez de la Creuse tout à l'heure.
On va en parler tout à l'heure, plus précisément.
D'accord. Ouais. Eh bien, on propose d'aller sur un lieu avec un objectif particulier, mais aussi, on pense à la famille, on pense à des endroits pour se ressourcer, pour pratiquer une activité de loisir, on pense à des conseils très pratico-pratiques, comment se garer, comment s'héberger, comment s'y rendre, voilà.
Par exemple, dans le podcast sur la Creuse, j'ai appris qu'il valait mieux avoir du liquide sur soi.
Exactement, bah ouais, voilà, on nous dit vaut mieux partir avec parce du liquide que... en Creuse, parce que effectivement, les commerçants ne prennent pas la carte bleue, il n'y a pas beaucoup de réseaux.
Et puis, il y a peu de distributeurs de billets. En tout cas, ce qui est bien, c'est que ce sont des gens qui connaissent vraiment le terrain sur le bout des doigts.
Exactement. Et surtout, ils vont nous proposer de poser notre regard ailleurs. Là, il y a quelques secondes, on entendait un extrait du podcast qui nous vient de Gascogne sur la petite Amazonie landaise. Quand on va dans les Landes, nous, on pense à quoi ? On va dans les Landes, on se pose sur une dune et on regarde vers le grand large de l'Atlantique. Et bien là, non, justement, on se retourne, on va vers l'arrière-pays et on découvre un écosystème qu'on ignore complètement et qui va nous éclairer, nous surprendre. Et surtout, on va se retrouver en dehors des sentiers battus. C'est vraiment un moyen de faire du tourisme sans être dans la file avec les touristes.
En tout cas, vous avez imaginé ce podcast comme une ressource complémentaire, évidemment, des guides touristiques.
Exactement, c'est une source d'inspiration et une ressource.
Alors, on partira tout à l'heure dans la Creuse, à Ermenonville, dans les Vosges ou encore à Dieppe. Et en attendant, il est l'heure de retrouver le plaisir littéraire de Christilla Pelédoel. Christilla Pelédoel, l'autrice de ces livres qui nous font du bien. Alors vous avez choisi « L'œil de Goliath » de Diego Muzio et c'est publié aux éditions Phébus.
Oui, quel titre, hein, « L'œil de Goliath », on se demande bien ce que c'est. Alors Diego Muzio, c'est un Argentin, déjà on part un peu loin, qui vit au Mans. Hein, voilà, il est venu s'installer en France, voilà. Le livre est traduit de l'espagnol par Eric Reyes-Boer. C'est publié chez Phébus et c'est un roman gothique. Alors on se dit, ouais, un roman gothique, il y en a eu beaucoup, c'est un genre peut-être un peu usé. Ben pas du tout, je vais vous dire, vraiment pas du tout. Tout y est, ça se passe dans les années 20. Et évidemment, le roman est lui-même complètement imprégné par Stevenson. D'ailleurs, un des personnages s'appelle Stevenson. Voilà.
Qui vous est cher.
Qui m'est très cher. Stevenson, mais aussi Edgar Poe,
c'est
Mary
l'auteur
Shelley.
De, notamment de L'île au trésor.
Et de Jekyll et Hyde, qui va avoir une importance importante. Une importance importante.
Merci beaucoup pour...
dans le livre. Voilà. Alors, l'histoire, c'est qu'un psychiatre, ça se passe dans les années 20, un psychiatre qui s'appelle Edward Pierce dirige une clinique psychiatrique à côté d'Édimbourg. Voilà, je ne vise personne, suivez mon regard. Et cette clinique privée est spécialisée dans le traitement des traumatismes de la guerre de 14. Et lui-même, d'ailleurs, le Edward Pierce, a été atteint par un éclat d'obus qui est arrivé se loger dans son crâne pendant la bataille de la Somme et qu'on n'a pas réussi à lui enlever. Et cet éclat lui provoque des douleurs absolument épouvantables. Et un soir, arrive une voiture d'où sort un certain monsieur Stevenson, qui est directeur de l'inspection des phares et balises, pardon, qui est une allusion d'ailleurs directe à la profession du père de Robert Louis Stevenson. Et il est accompagné d'un homme qui est très gravement atteint. Alors il arrive le soir parce qu'on ne doit pas savoir qui est cet homme, il faut que ça reste secret. Et cet homme, Bradley, a été secouru récemment, alors qu'il était en mission, il est revenu de la guerre de 14, mais il était en mission dans un phare non loin du Cap Horn, perdu au milieu de la mer. Vous imaginez, pas loin du Cap Horn, les vagues...
Guillemette est en train de se faire le film, là.
La solitude et tout ça. Et il se trouve que le phare s'appelle l'œil de Goliath. Il ne parle plus, cet homme. Qu'est-ce qui s'est passé dans le phare ? Alors évidemment, ça va être tout le sujet du livre. Que s'est-il passé ? Et d'autant plus qu'il arrive complètement traumatisé. Et son traumatisme s'explique par des mouvements saccadés qui ressemblent à de la nage. Il se jette au sol et il se met à faire les mouvements de la natation. Alors un peu.
Ça m'arrive souvent.
Oui, bon, ça, je n'osais pas le dire. Je voulais pas vous dénoncer. Alors, dans ce phare, on découvre le journal de Bradley, et dans ce phare, on apprend qu'avant lui a séjourné un épouvantable assassin qui s'est retrouvé là parce que évidemment il ne pouvait pas s'enfuir de ce phare et qu'il avait accepté de prendre le poste puisque personne ne voulait y aller. Et alors, bon, que s'est-il passé dans le phare? On n'en sait rien. En tout cas, on y trouve de l'angoisse, mais vraiment des fantômes, des cris. Et même, alors ça c'est le petit point, de la taxidermie.
Oula.
La taxidermie est très... Alors c'est vraiment une atmosphère particulière, mais là, surtout, ce que je trouve formidable dans ce livre, c'est que la fin est complètement inattendue et renouvelle complètement le genre, parce que d'un seul coup, le paysage s'ouvre et la perspective change. On n'est pas vraiment, plus vraiment, dans un livre de genre. C'est autre chose, totalement surprenant.
Sur le baromètre de l'envie de lire, Guillemette Audicino.
Ça dépend, c'est quoi la
10.
C'est quoi le ratio? Ah, de 9,5, bon, ça
très
va
bien,
faire.
Très très bien. Ça s'appelle L'œil de Goliath. Si j'avais dit 4,5, là, bon. L'œil de Goliath de Diego Muzio, c'est chez Phébus. Petite réaction, Christina, sur le baromètre consacré aux Français et à la lecture, réalisé par le Centre National du Livre et Ipsos, une enquête bisannuelle réalisée auprès de 1000 personnes âgées de plus de 15 ans. Et là, on constate, et c'est assez inquiétant, un décrochage extrêmement violent de la lecture dans toutes les catégories socio-professionnelles et dans tous les âges.
Et particulièrement dans les catégories socio-professionnelles qui, traditionnellement, sont celles qui lisent le plus. Et la catégorie d'âge, la tranche d'âge aussi. Et ça, c'est vraiment... c'est terrible, c'est terrible. Alors, on n'en a pas l'impression, parce que quand on va dans les festivals ou même dans les librairies, on a la sensation qu'il y a du monde.
Or, je l'ai vu à Quai du Polar la semaine dernière.
Voilà. Et vous allez le voir encore tout à l'heure, on va annoncer votre venue. Mais c'est terrible, quoi. C'est vraiment, le constat est dramatique. Des gens qui lisaient une quarantaine de livres par an, qui sont ce qu'on appelle des gros lecteurs, ont complètement décroché. Alors évidemment, la question qu'on se pose, c'est de savoir pourquoi. C'est vraiment l'interrogation. Alors, c'est pas compliqué, hein. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire la faute aux écrans et la faute aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que tout le monde...
Aux plateformes type Netflix, Amazon,
tout
etc.
Tout le monde se plonge et reconnaît d'ailleurs que c'est un manque ou que c'est une manie particulièrement néfaste, mais c'est un constat. Alors,
qui autour de la table, ça c'est un vaste débat, qui autour de la table a l'impression quand même de lire moins qu'avant, au-delà des obligations professionnelles? Il y en a une courageuse, Danielle Jerkens, directrice de La Table. Ouais.
Oui, alors moi j'ai toujours lu énormément, j'ai toujours lu 2 à 3 livres par semaine. Et là, je suis plutôt sur un rythme de 1. Et je me fais aspirer dans le terrier du lapin, de X, d'Instagram, tout ça.
Hein. Yann Chouquet ?
Ouais, moi aussi. Je suis sur le même ratio à peu près. À chaque fois que je perds mon temps sur les réseaux sociaux, je relève la tête et je me dis « Ah, mon Dieu, le temps, une heure de lecture de
perdu !» Mais c'est l'éternelle lutte entre la culpabilité et la dopamine.
Ouais, exactement.
La Guillemette.
Non, moi, c'est pas trop les réseaux sociaux, pour être tout à fait honnête, mais en revanche, moi, je me fais aspirer par les écrans parce que...
Eh oui,
c'est un peu votre métier.
Eh oui, ma passion du cinéma et des séries télé fait que... Et il faut être honnête, de temps en temps, je choisis la facilité dans la narration. Je préfère qu'on... Mais oui.
C'est joli.
Qu'on me prenne par la main.
Oui, je préfère qu'on me raconte une histoire sur un écran plutôt que je fasse l'effort de la lire sur du papier.
Si tu veux, je vais t'enregistrer des histoires.
Thibault.
Les écouter.
Oui, moi, je voudrais juste introduire un tout petit point de complexité à ce tableau apparemment catastrophique. C'est qu'il ne faut pas condamner tous les écrans et toutes les fictions. Il y a d'excellentes séries télévisées.
Ah, mais ça, c'est pas la question.
Non, mais qui peuvent... sont bien sûr un usage différent de la lecture, mais qui peuvent aussi procurer, en termes d'expérience, de plaisir de la fiction, d'éducation morale, populaire, etc.,
ah oui,
ce que un roman peut procurer.
Oui, mais...
Je dis bien que ça n'est pas le même usage, mais il faut pas non plus...
Le problème, c'est que ça atteint quand même directement une part énorme, d'abord, de talents particuliers et d'un secteur économique qui est celui de l'édition. C'est quand même... Bah oui, c'est dramatique.
Oui, bien
et
sûr, c'est un mais effondrement le secteur économique de l'imaginaire. Peut aussi réagir. Les livres aussi ont un coût. Il y a peut-être des initiatives à prendre, etc.
Oui,
j'introduis juste un point de complexité.
Pas la solution.
Moi, je vais dans le sens de Thibault aussi, à savoir, est-ce que... Enfin, il y a certaines études, comme celle d'Anne Cordier, en info de l'incommunication, etc., qui montrent que les supports de lecture varient. Donc, en effet, le bouquins qui s'achètent dans les librairies, voilà, mais il y a aussi d'autres formats de lecture plus rapides et les jeunes notamment lisent beaucoup sur leurs écrans. En effet.
La résistante du livre, Adeline Baldacchino, grande, immense lectrice.
Oui, mais c'est vrai qu'il y a des séries qui peuvent donner envie d'aller lire les livres qui en sont à l'origine ou qui peuvent être dérivés, etc. Le vrai problème, c'est le temps. C'est ça. C'est tout le temps, non pas mangé d'ailleurs par les séries, mais par tout le reste de cette espèce de frénésie contemporaine.
Bien sûr, mais c'est aussi ce que disait Guillemette. C'est plus facile de regarder une série ou d'aller traîner. Et c'est vrai que plus les réseaux sont, on le sait, calculés pour vous happer. Et c'est plus difficile, ça demande un effort parfois de rentrer dans une lecture. Il faut faire ce mouvement, et donc voilà.
Merci beaucoup Christina Pénédouel pour votre choix. À 10h21, il est l'heure de retrouver Guillemette Odissino et son ami du vendredi.
France Inter.
Chouette, tu es Harry Potter.
Grand bien vous fasse.
Je suis Hermione Granger et...
Évite de choisir tes amis parmi les gens douteux. Je peux te conseiller.
Guillemette Odissino.
Alors, cher Ali, vous allez parler voyages, destinations qui font rêver, découvertes de contrées plus ou moins éloignées, paysages verdoyants et petites places de village. Mais vous ne mettez pas assez en garde les gens. Moi, dès que je vois un drôle de tunnel, par exemple, dans la campagne, ou pire, un petit pont d'inspiration japonaise, je me demande si c'est bien sage de descendre de la bagnole. Parce que je ne peux pas m'empêcher de penser à l'une de mes amies les plus chères, un petit bout de fille, qui pourtant avait bien dit « je veux pas y aller ». Chihiro, dont le voyage, franchement, n'a pas été de tout repos. Dans le chef-d'œuvre de Miyazaki, la gamine déménage avec ses parents à la campagne, et alors qu'ils parviennent à leur maison bleue, c'est une maison bleue. Ah, non, pardon.
Bon, merci.
On y vient à pied. Bah ouais, bah par. Oui, bah ouais, peut-être que Miyazaki connaissait Maxime Le Forestier. Ou sûrement. Voilà que papa et maman veulent absolument entrer dans un petit tunnel puis explorer ce qui ressemble à un parc d'attractions abandonné. Pourtant, Chihiro proteste. Mais alors vous avez remarqué, on n'écoute jamais les enfants pendant les visites, les promenades ou les vacances. Alors elle dit bien à ses parents que c'est chelou de se retrouver devant un énorme banquet et de se servir sans demander l'autorisation. Franchement, d'ailleurs, c'est toujours suspect, non, les buffets à volonté. Bon, eh ben, voilà, les deux parents adeptes de la surconsommation se retrouvent transformés en porcs.
Et votre petite Chihiro se retrouve toute seule dans un drôle de pays.
Oui, alors Miyazaki réinvente Alice au Pays des Merveilles, mais avec, en gros, un établissement thermal pour esprits et monstres en tout genre. Donnez-moi un travail. C'est pas à vous que je parle, Ali. ni à Yann Chouquet, d'ailleurs. C'est ce que Chihiro est obligée de répéter. Elle répète cette phrase pour ne pas être dévorée et pour sauver ses parents. Elle est si désintéressée, cette petite fille, si courageuse, si intelligente, et elle va endurer des situations qu'on ne souhaite à personne, comme de devoir donner un bain, alors excusez-moi de l'expression, à un énorme paquet de merde et de déchets, et réussir à lui redonner la beauté de l'air pur. Alors, premier conseil, pendant vos vacances, n'allez pas dans un spa qui vous paraît étrange, surtout si la patronne a une tête de sorcière et les ongles ultra manucurés. Mais il y a autre chose. Chihiro, c'est Chihiro, et elle n'est pas reproductible. Le rêve, c'est aussi un territoire à préserver, et il ne se copie pas avec GPT. Pour lancer le programme GPT 4.0, enfin je sais même pas, on s'en fout, le patron d'OpenAI, Sam Altman, avait posté en exemple une photo de lui dans le style graphique de Miyazaki. Alors résultat, une vague mondiale de selfies à la manière de Princesse Mononoke ou du voyage de Chihiro, sans évidemment demander la permission à Miyazaki et sans se préoccuper des droits d'auteur. Bon, on parle même pas de Trump, qui lui usa de ce procédé pour poster sur X une image façon Ghibli de l'arrestation d'une ressortissante dominicaine par un agent de la police fédérale de l'immigration. Ah bon. Alors, le talent des autres, surtout pour en faire de la merde, c'est pas open bar. C'est pas un buffet gratuit, le talent des autres. Autrement, on se comporte comme des porcs, et faudra vraiment beaucoup de Chihiro qui devront trimer pour nettoyer les esprits et sauver l'imagination.
Tous les épisodes de L'Ami du Vendredi de Guillemette Odissino sont à retrouver sur l'appli Radio France. Mais donnez envie de revoir Le Voyage de Chihiro.
Ah oui, c'est un chef-d'œuvre absolu et d'une richesse non seulement d'image, mais aussi d'une richesse d'évocation. Il y a une image extraordinaire, par exemple, c'est le moment où Chihiro prend un train avec un des fantômes et on voit le train passer dans la nuit avec seulement ces deux personnages. C'est d'une beauté extraordinaire.
Et ça parle beaucoup du monde d'aujourd'hui.
Allez, dans un instant, on se retrouve pour vous donner envie de vous balader du côté de la Creuse. Et oui, la Creuse, c'est formidable. Vous allez le voir dans quelques instants. Du côté de Nîmes, encore de la Forêt-Noire. Ce sera juste après avoir écouté Supertramp, Dreamer, une chanson sortie en 1974, 10h26 sur France Inter. Supertramp, interprété de Dreamer.
Ali Rebéi, t'as déjà voyagé?
Alors, oui, j'étais à Romorantin. Je même été plus loin, jusqu'à Vierzon, j'y étais.
Grand bien vous fasse.
Tu sais combien il y a de départements en France?
Il y en a 90.
90? Merde, c'est grand la France.
Sur France Inter.
Ah bah oui, c'est grand la France. Grand bien vous fasse. Week-end et quelques destinations pour les vacances de printemps, pour un week-end, et pourquoi pas la Creuse?
Bienvenue dans Partir. En Creuse, dans les pas de Monet et des impressionnistes. Notre point de départ, c'est le village de Fresslin, 500 habitants, à 40 minutes de route de Guéret, la préfecture. Pour commencer, on peut s'éloigner un peu du bourg, pour s'asseoir en haut d'un gros rocher, au milieu des chênes, des hêtres et des châtaigniers. Face à nous, il y a du sable, de l'eau, mais ce n'est pas la mer, c'est la rivière Creuse qui coule. Et c'est ici, pile sur ce rocher, qu'un certain Claude Monet a posé son chevalet.
Extrait du podcast Partir du réseau ici, disponible sur l'appli Radio France. Yann Chouquet, ce podcast consacré à la Creuse des peintres impressionnistes m'a donné très envie d'aller faire un tour là-bas.
Et moi
la
aussi.
Creuse n'est pas a priori une destination qui fait rêver. Mais là, en écoutant ce podcast...
Et puis je ne situais pas le centre d'intérêt principal des impressionnistes en Creuse. Mmh. Pour moi, c'était évidemment Giverny, les côtes normandes. Et on apprend qu'ils se sont installés là-bas. Et vous savez d'ailleurs pourquoi ils se sont installés là-bas. Enfin, pourquoi ils sont partis là-bas.
Et vous allez nous le dire, Yann Chouquet.
Bon, ben,
l'immobilier pas cher.
Est-ce que l'immobilier pas cher.
Oui, bien sûr.
Non, c'est parce que c'est au moment où on a inventé les tubes de peinture. Ouais. En fait, ils ont pu sortir des ateliers pour y transporter leur matériel. Et ils se sont installés donc en Creuse parce que la nature y est véritablement luxuriante et puis surtout authentique, il y a peu d'habitants, etc.
Sandrine Mercier.
Et oui, et puis on peut prendre le train aujourd'hui pour aller en Creuse carrément depuis Paris.
Avec son vélo.
Paris, la souterraine, et là on prend le bus pour aller jusqu'à Aubusson en passant par Guéret. Voilà, on aura fait les trois villes principales de la Creuse. Et pourquoi Aubusson aussi? Parce que c'est la cité de la tapisserie. Et c'est pas du tout un truc poussiéreux comme on peut l'imaginer. Ils sont vraiment dans une dynamique avec des artistes contemporains. Et alors là, on était complètement synchro sans le savoir. On peut voir en ce moment l'expo Miyazaki. Et il y a eu exactement des grands yeux comme ça. Ils ont fait une collab avec les studios Ghibli et ça a duré des années. Et effectivement, aujourd'hui, on voit des œuvres monumentales là-bas à Aubusson.
Et d'ailleurs, il y a une de ces tapisseries qui est au pavillon français à Osaka pendant plusieurs mois, là, lors de l'exposition universelle, qui est une des rares œuvres présentées au pavillon français.
Ouais, comme quoi la Creuse est aussi le creuset
centre
de cette contemporaine.
C'est Creuse centre du monde ce matin.
De l'art contemporain. Et on peut voir aussi à Paris en ce moment 16 tapisseries qui ont été réalisées là-bas à Aubusson. Sur les œuvres de Tolkien. Ils ont mis 12 ans à les réaliser et là, elles sont en ce moment même au Collège des Bernardins à Paris, mais elles ont été vraiment fabriquées à Aubusson. Et si on veut suivre le fil comme ça des tapisseries de A à Z, on peut aussi voir le musée du carton. C'est vraiment ce qui sert de base, de modèle aux tapisseries. Comme ça, on fait toute sa culture sur la tapisserie à Aubusson et après, on s'en va, on prend la voiture et on va effectivement sur cette vallée des peintres pour on peut suivre les pas de Monet, en fait. Il y a des balade en creusant, à Creusant et Fresline, là où Monet a peint, il y a des panneaux explicatifs.
Non, mais c'est vrai que le podcast d'Entre-Mains Vues, parce que c'est vraiment une voix amicale qui nous prend par la main et qui connaît vraiment le territoire. Et ça, c'est assez chouette.
Ouais, c'est un principe de base. On a demandé à ce que les journalistes ou les animateurs, parce que c'est journalistes et animateurs qui produisent ces podcasts, il faut qu'ils soient passionnés. Voilà. D'ailleurs, tous les podcasts commencent comme ça. C'est pourquoi est-ce que j'ai choisi ce lieu? C'est le lieu que je fais visiter à mes amis quand ils arrivent en Creuse. Et ça, on a envie de prendre cette main et de la suivre.
Donc il y a Marseille, il y a Concarneau.
Il y a Marseille, il y a Concarneau, il y a... J'ai des listes et des listes, enfin il y en a beaucoup.
Et ça va être... régulièrement, il y aura de nouvelles destinations.
Oui, je pense qu'on en aura à peu près plus de 200 à la fin de la saison prochaine, parce qu'évidemment il y a 44 radios locales, donc et puis la France regorge de lieux incroyables.
Aline Badlachino, et si nous partions à Ermenonville, sur les traces de Jean-Jacques Rousseau?
Mais oui, parce que moi j'aime bien voyager pour lire, justement. On parlait de ça. C'est un des moments où on peut le plus lire en réalité, parce qu'il y a des transports, parce qu'on est dans des hôtels, parce qu'on a envie de plonger dans un bouquin qui soit en rapport avec ce qu'on voit.
Et alors, à Ermenonville,
et tant mieux. En plus, on peut aller se balader à Ermenonville, qui est quelque part entre Senlis, Paris et Lille.
J'ai l'impression que vous parlez du triangle des Bermudes.
Et pourquoi on va là-bas? Pour rencontrer le fantôme, parce qu'on va rester dans le gothique aussi, de Jean-Jacques Rousseau dans l'île des Peupliers. Et en réalité, Rousseau a passé là-bas les 6 dernières années de sa vie. Il y a écrit et il y a été enterré jusqu'à ce que la Convention aille récupérer ses restes pour les mettre au Panthéon en 1793. Et donc son cénotaphe, c'est-à-dire son tombeau en pierre, reste là, sur une petite île, avec des peupliers magnifiques. C'est très romantique, surtout en cette saison, quand les peupliers viennent justement de retrouver leur feuillage, au milieu du parc Jean-Jacques Rousseau, d'où part un sentier, le sentier des écrivains, qui fait référence à la fois à Rousseau et puis à tous ceux qui sont venus lui rendre visite là-bas, parce qu'il y a eu des grands de ce monde qui sont venus le voir, et il y a rencontré même Napoléon, enfin voilà, mais qui fait référence aussi donc aux autres écrivains qui ont pu aimer cet endroit, notamment Gérard de Nerval, et qui rejoint, on peut le faire sur une boucle de 10 km aller-retour, l'abbaye de Chaly. On traverse comme ça une sorte de vallon très, très romantique. Il y a un château là-bas, un château qu'a occupé à un moment donné Bugatti, dans un autre style et un autre genre, qui est devenu un hôtel, donc on peut y rester. Et puis alors, pas très loin, si on a des enfants, David m'a évoqué ses souvenirs tout à l'heure, il se trouve qu'il y a cet endroit complètement improbable, la mer de sable, qui sont en fait les restes géologiques de sable très ancien, d'air ancienne, où il y avait là un océan chaud en réalité, et qui est devenu un parc d'attractions qui fait rêver les gamins.
Moi, ça me faisait rêver quand je lisais Petit Fantomètre à la mer de sable, un épisode de Fantomètre qui se passe là-bas. Aline Badakino, la magistrate à la Cour des comptes, qui nous donne envie d'aller à Ermenonville. David Habitant, rédacteur en chef de Théma.archi, si on allait faire trempette à Dieppe.
Bah oui, alors, bon, d'habitude, vous le savez, moi je suis plutôt team Méditerranée, oui. Mais puisqu'on parle aujourd'hui des vacances à la dernière minute, alors j'ai voulu évoquer une plage facile d'accès en train, mais le réseau ferroviaire en France étant ce qu'il est, donc très centré sur la capitale, ça nous donne la plage la plus proche de Paris en train, et en l'occurrence c'est Dieppe, à 2h30 de la gare Saint-Lazare. Dieppe, c'est une ville que j'adore, alors je sais qu'elle peut déconcerter, hein, parce que les bâtiments du front de mer en fait créent une vraie séparation entre la ville d'un côté et la plage de l'autre, du coup on oublie presque qu'on est dans une station balnéaire, alors même que Dieppe fut la première station balnéaire de France. C'est ici qu'on a lancé la mode des bains de mer, c'était à la fin du XVIIIe siècle. À l'origine, on appelait ça le bain à la lame. Vous avez des gros costauds qui vous prenaient, qui vous soulevaient et qui vous jetaient dans l'eau.
Vous vous souvenez, Christina, ça vous est arrivé?
Oui, bien sûr, Christina. Au XVIIIe siècle, bien entendu. Et
tout ça sans savoir nager.
Exactement.
Et c'est comme alors, ça que j'ai appris.
On a un petit peu adouci ça depuis. On en a fait des bains d'eau de mer chauffés. Il a fallu construire des bâtiments spécifiques avec des salons de lecture, des salles de billard et des casinos. C'est comme ça que sont venus les casinos des stations balnéaires. Bon, hélas, il reste plus grand chose de cette histoire à cause notamment des destructions de la Seconde Guerre mondiale, mais il y a plein de choses pour compenser ce manque à Dieppe. Entre, c'est le relief de la ville qui est coincé entre deux falaises et tous les paysages qui en découlent. À mon avis, ça compense largement aussi s'il y a deux choses que je vous recommande de faire à Dieppe. Alors, soit vous allez sur la falaise et vous marchez vers l'est, soit vous allez sur la falaise et vous marchez vers l'ouest. Et dans les deux cas, vous allez...
Vous ne marchez pas droit devant vous, on tombe dans l'eau.
Il vaut mieux éviter tout droit face à la mer, effectivement. Vers l'est, il y a la chapelle Notre-Dame de Bon Secours qui est perchée là-haut sur sa falaise, construite à la mémoire des marins disparus en mer... que vous le voyez d'ailleurs en rentrant dans la chapelle, il y a plein de maquettes comme ça, de bateaux, une vue sublime, etc. On me demande d'aller vite alors que je vous parle plutôt de l'Ouest. Il y a tant de choses à en dire sur cette chapelle Notre-Dame de Bon Secours.
Vous aurez le temps cet été dans notre émission estivale.
On ira à Dieppe, effectivement. Vers l'Ouest sinon, on peut marcher jusqu'à Pourville-sur-Mer, c'est le GR21, le chemin de randonnée qui passe par Dieppe en longeant comme ça par le haut des falaises, falaises de craie, donc iconique de la côte d'Albâtre.
Yann Chouquet approuve.
Ah, magnifique, avec un formidable restaurant, l'huître fleurie. Et puis surtout, on peut prendre le bateau aussi à Dieppe. On peut prendre le bateau pour New Haven. Et ça, c'est une belle promesse d'horizon vers le nord.
Et en septembre, il y a un festival du cerf-volant incroyable et ça vaut la peine d'y aller pour ça aussi.
Ça, je sais pas. Bon, Sandrine, merci.
On peut prendre aussi le kayak pour border les côtes. On a une micro-aventure dans AR qui en parle. Donc Dieppe est aussi au centre du monde.
Sandrine Mercier, rédactrice en chef du magazine AR. Balade dans la Forêt Noire en Allemagne, non pas pour visiter la clinique de la Forêt Noire, mais parce que c'est le pays, je sais que c'est nul, guillemets, dit sinon, mais pour aller au pays des coucous.
On va au pays des coucous. La Forêt Noire, c'est la région d'Allemagne, en tout cas dans ce Bade-Württemberg, qui attire le plus de Français. Bah, c'est juste à côté et on peut y aller aussi en train. C'est vraiment cette proximité à 2h30 en direct depuis Paris pour Karlsruhe. C'est vraiment la porte de la Forêt Noire. Alors, je vais commencer avec un peu de culture, de patrimoine avant de plonger dans la forêt. Originalité architecturale. Donc là, je fais un clin d'œil à David. Il faut vraiment y aller pour ça à Karlsruhe. La ville est construite sur un plan en éventail. C'est-à-dire, il y a le château
qui est comme ça au cœur. Et il y a 32 rues qui partent en éventail. Donc c'est vraiment unique au monde. Ça pourra faire l'occasion effectivement d'une émission. On va te donner plein d'idées. Et de là, on peut prendre le tramway pour aller visiter un autre château, le château baroque fantastique de Rastatt. Et il est considéré vraiment comme la première résidence royale allemande. Et il y a un pavillon de chasse où il faut absolument aller si vous aimez les petites porcelaines, parce que c'est la plus grande collection de porcelaine au monde. Et c'est la porcelaine de Meissen. Est-ce que vous savez ce que c'est que cette porcelaine? Ah bah oui,
oui, c'est très joli la porcelaine de Meissen.
Alors,
oui.
Vous savez, toutes ces petites figurines avec les petits amoureux ou la
vaisselle. C'est un chou de kitsch.
C'est à la mode.
En tout cas, Thibault n'ira pas. Hein. Il a levé les yeux au ciel.
Peut-être j'irai voir autre chose.
C'est quoi la différence avec la porcelaine de Saxe?
Alice, si je puis me permettre une petite insertion. La Forêt Noire est aussi une des régions d'Europe où il y a le plus d'étoilés Michelin rassemblés, et notamment dans un village qui s'appelle Bayersbronn-Mitteltal, dans lequel il y a plusieurs restaurants et hôtels, dans lesquels il y a des restos 3 et 2 étoiles. Donc c'est sublime.
Et vous cassez votre PEL pour...
Voilà. Non, mais c'est au bout de la petite route effectivement des vins dans le pays de Bade, et ils ont le stop gourmand à Bayersbronn, 15 000 habitants et 8 étoilés Michelin. Ouais. Donc c'est vraiment ce rapport incroyable. Et on va quand même aller dans la forêt aussi voir cette fameuse rando, un sentier à Urwald, qui est dédié justement au fameux coucou. Alors on se balade, ils ont accroché des coucous partout au tronc des arbres ou sur les pancartes de signalisation. Et du coup, ça marche toute l'année, puisqu'il n'y a pas besoin ni d'électricité ni pile. Hein. On remonte comme ça de temps en temps le coucou, et il peut sortir effectivement de son chalet typique. Donc ça, c'est dans la haute forêt noire. Et on fait quand même un stop à Fribourg, puisque c'est vraiment le centre-ville aussi est absolument incroyable, puisqu'il est traversé par plein de petits ruisseaux qu'on appelle des bechelets là-bas, et on peut pique-niquer au bord et mettre les pieds dans l'eau aussi, donc au mois de mai, ça va être super.
Adeline Baldacchino, voyage immobile, voyage en chambre, en compagnie d'Emmanuel Rubin, qui publie « L'usage du Japon, une traversée de l'archipel à vélo ». C'est publié chez Stock avec des dessins de l'auteur.
Ouais, et alors
j'ai feuilleté, c'est magnifique.
Ah, c'est magnifique, puis alors si on a envie de voyager, qu'on ne peut pas forcément... C'est un peu tard, là, les cerisiers, c'est trop tard. Au Japon, c'était tout récemment. C'est loin, c'est cher, etc. En revanche, on se prend 2 heures et on plonge dans ce livre. Emmanuel Rubin, qu'on connaît aussi pour avoir écrit des sagas historiques, de nombreux romans, a passé 4 mois à la villa Kujoyama à Kyoto. Et il est parti là-bas sur les traces d'un géographe fou. Il est lui-même géographe de formation, d'ailleurs, mais de celui qu'il appelle un géographe fou, qui était un japonais du 18e siècle. Ino Tadataka, le premier à avoir cartographié le Japon en marchant 40 millions de pas le long des côtes, puisque évidemment, en plus, le Japon en fait est un archipel, et on découvre là qu'il y a plus de 14 126 îles au Japon, et donc Emmanuel Rubin part chercher la mer, et en fait il trouve la montagne, et en plus il part avec un vélo de course, et donc il se balade partout, il décrit c'est un journal, donc c'est des petits chapitres très courts qui nous font vraiment explorer avec lui, c'est plein de sensations, de couleurs, d'odeurs, il décrit très très bien notamment les arbres, parce qu'il arrive à l'automne, donc les érables, les cryptomères, les carpes partout, la silhouette du mont Fuji qui est extraordinaire, les temples qu'il explore. C'est très très beau, très drôle aussi, avec plein d'annotations, on apprend plein de choses, parce que c'est un géographe qui écrit en cherchant à son tour à comprendre comment est-ce qu'on peut faire à pied le tour de cet endroit, et qui explore aussi les pouvoirs de la fiction, puisque pour lui, en fait, c'est une manière de parler des pouvoirs de la littérature et du réel, le territoire qui excède toujours la carte, c'est-à-dire en fait l'imaginaire, parce que dans le territoire il y a aussi tout ce qui est invisible qu'on doit aller chercher en pédalant pendant des dizaines de kilomètres. Et donc c'est une très belle méditation et littéraire et voyageuse.
Ça vous plaît, Yann Chouquet, hein, vous qui êtes cycliste, hein?
Ah oui, complètement, hein, je vais repartir avec le livre.
Oui, c'est sûr. Pas sûr qu'elle vous...
Moi aussi,
ça s'appelle L'usage du Japon, une traversée de l'archipel à vélo, c'est chez Stock et c'est signé Emmanuel Rubin. David Habitant, l'art déco à l'honneur, si on se balade un peu partout en France, hein, du côté de Reims, de Rennes, de Lens, encore de Moissac, l'art déco, ce courant architectural qui fête ses 100 ans cette année.
Effectivement, c'est pour ça que je vous en parle, et aussi parce que le thème de l'émission, c'était partir en dernière minute. Alors du coup, je me suis dit, on peut partir à côté de chez soi. Ça n'en est pas moins enrichissant à partir du moment où on a quelques codes pour lire l'architecture. À ce moment-là, on se balade dans une ville comme dans un musée, et même un lieu qu'on connaît très bien, eh bien, on se retrouve à le redécouvrir. Il se trouve que l'architecture Art déco, à mon avis, c'est une très bonne entrée pour s'intéresser au patrimoine qui nous entoure. D'abord parce que c'est très simple à repérer, j'y reviens dans un instant. Ensuite, c'est un courant qui était très en vogue dans les années 20-30, à une époque où on a beaucoup construit, et donc il y en a dans toutes les grandes villes de France. Et puis, bon là c'est très subjectif, mais je crois que c'est quand même très très beau l'architecture art déco. C'est un style comme ça, très élégant, très décoré, et en même temps très épuré, avec des lignes parallèles, des formes géométriques, souvent symétriques. On pense au décor du film Gatsby le magnifique, ça vous parlera, aux vieilles voitures Chrysler ou Bugatti. Tiens, c'était un clin d'œil à Grégory Cohen, on pense à lui. Voilà. En architecture, ça donne le Grand Rex ou le Palais de Chaillot à Paris, les Bourses du Travail de Lyon ou de Bordeaux, la Poste Saint-Aubin de Toulouse. Et si vous cherchez l'art déco à côté de chez vous, vous le trouverez peut-être sur la façade d'une mairie, d'une école, d'un bâtiment de logement. Des bâtiments pas forcément hauts, mais toujours avec des grandes verticales, des fenêtres comme ça qui traversent le bâtiment dans toute sa hauteur. Très souvent aussi, on a ce qu'on appelle des bow windows, vous savez, ces fenêtres en avancée de la façade, comme des balcons un peu vitrés. Et donc, vous le disiez, si je vous en parle, c'est aussi parce que dans quelques jours, à la fin du mois d'avril, on célèbre les 100 ans de la grande exposition internationale des arts décoratifs de Paris de 1925, qui a participé effectivement à diffuser l'art déco au-delà de la capitale.
Ça donne envie, oui, Daniel Jarkens.
C'est un style qui revient énormément en ce moment dans la décoration et c'est assez fascinant d'ailleurs de voir à quel point les jeunes décorateurs d'aujourd'hui réutilisent le vocabulaire et la grammaire. Alors, c'est même pas de la réinvention, c'est vraiment une inspiration extrêmement forte avec des hommages très appuyés. C'est un style totalement, je pense, totalement hors du temps aujourd'hui et d'une modernité phénoménale.
Sandrine Mercier, on n'a pas le temps de parler du Val-de-Loire, du centre Val-de-Loire, mais c'est dans le numéro de AR.
Numéro 70 déjà.
Voilà, le nouveau voyageur. En kiosque, évidemment. Il est l'heure de retrouver à 10h46 la chronique philo de Thibaut de Saint-Maurice.
France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'intello la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser, hein. Personne, jamais.
Alors, ce matin, Thibaut, une question qui nous taraude, qui nous concerne tous. Comment survivre au groupe WhatsApp ?
Mais oui, Ali, parce qu'il est fort probable que celles et ceux qui vont partir pendant ces longs week-ends à venir se mettent à créer des groupes WhatsApp dédiés pour le week-end, justement. Alors, pour partager les infos, les idées de restaurants, les photos prises et même de manière générale. J'imagine donc que, comme moi et comme beaucoup de nos auditeurs et nos auditrices, vous croulez sous les groupes WhatsApp, ceux que vous créez, ceux auxquels vous êtes ajoutés. Le raffinement des groupes connaît une inflation sans limite. Et pour prendre un exemple, chers auditeurs et auditrices, qui va vous dévoiler les coulisses de l'émission, nous avons donc un groupe tous ensemble pour savoir qui apporte les croissants chaque vendredi matin. Mais il y en a aussi un groupe sans guillemets pour pouvoir discuter de ses amis, un groupe sans Grégory où on échange des recettes de cuisine légères, un groupe sans Julie où l'on peut écrire sans corriger nos fautes d'orthographe, et surtout évidemment un groupe sans Ali où chaque vendredi, chacun dit ce qu'il a pensé de l'émission. Alors moi évidemment celui-là je l'ai quitté immédiatement parce qu'il m'est insupportable que l'on puisse dire du mal d'Ali, et surtout parce que je préfère le groupe que nous avons avec Ali et Sybille Veil, la présidente de Radio France, où nous discutons en adulte responsable sur les grandes orientations de cette maison.
Oui, il est parfait.
Je plaisante donc, mais vous m'avez compris, entre les groupes de la famille sans les parents, les groupes de frères et sœurs et sans les beaux-frères et belles-sœurs, mais les groupes des beaux-frères et belles-sœurs sans les frères et sœurs, les groupes des parents de l'école, les groupes de la chorale, de l'amicale, du boulot et j'en passe, on est donc noyés sous les messages et dans les conversations.
Et cela à toute heure du jour et de la nuit. Hein.
Oui, dans une sorte d'extension infinie du domaine de la conversation où chacun prend la parole à tout moment et partage à peu près tout ce qui lui passe par la tête. Alors d'un côté, on peut y voir une sorte de phénomène hyper démocratique où chaque voix compte et où chacun peut s'exprimer et se faire entendre. Et d'un autre côté, avec ces messages permanents à propos de tout, sans qu'on les ait toujours sollicités, on peut aussi y voir l'un des signes de ce que le philosophe Cornelius Castoriadis, à propos de nos sociétés contemporaines, appelait la montée de l'insignifiance. À force d'individualisme, d'égalitarisme et de repli sur soi, notre démocratie, pensait-il, est en train de mourir. Le sens de l'affrontement politique et de l'engagement citoyen est en train de se perdre au profit de conversations privées qui grignotent tout l'espace public. Et pourtant, on ne peut pas nier que la communication et la conversation sont deux principes clés de notre vie sociale et de notre épanouissement personnel. Alors, que manque-t-il à ces conversations de groupe pour être enfin supportable? La réponse est peut-être à aller chercher cette fois-ci chez un autre penseur, Tocqueville. Alors lui, il a observé la toute jeune démocratie américaine au début du 19e siècle. Et Tocqueville aperçoit la nécessité pour une société démocratique d'avoir des manières démocratiques. Oui, des règles de politesse, des formes, une étiquette proprement démocratique. Pourquoi ? Parce que si l'égalité démocratique incite à la spontanéité des relations et des conversations, elle ne permet pas, à elle seule, de canaliser les impulsions de chacun, d'assurer le respect pour tous et de resserrer les liens. Il nous faudrait donc avoir plus de manières dans nos conversations numériques. Alors non pas ces manières guindées et hiérarchisantes héritées des rapports de classe des sociétés inégalitaires, mais des manières proprement démocratiques, exprimant le respect de la parole de chacun, le souci de la tranquillité de tous. Toutes les messageries et les espaces de discussion numérique de ces dernières années ont débarqué dans nos vies, de façon fracassante. À nous donc d'inventer le savoir-vivre qui va avec.
Guillemette.
Et je pense à nous aussi d'ajouter coûte que coûte de l'amour dans ces conversations multiples et variées, parce que c'est quand même mieux d'être réveillé à 3h du matin par un fil WhatsApp drôle que par un fil WhatsApp, par exemple, plaintif ou... voilà, l'humour sauve, comme les réseaux sociaux, l'humour sauve de beaucoup de situations envahissantes.
Thibaut de Saint-Maurice, l'homme capable de philosopher sur l'épluchage des légumes. Ah oui, oui, vous pouvez retrouver
cette chronique. Et sur Kiki les croissants.
Toutes ces chroniques sur l'appli Radio France. Après les nourritures intellectuelles, les nourritures bien terrestres de Danielle Jerkens, directrice de la rédaction de À la table. Alors, ma chère Danielle, dans le À la table actuellement kiosque, j'ai repéré et j'ai choisi. Voilà. Un minestrone au raviol, au pesto et légumes verts.
C'est arbitraire et formidable. Oui. En fait, on s'est interrogé sur les ravioles, parce que les ravioles, on a tendance à les manger uniquement avec de la crème, ce qui est excellent, mais on peut en faire beaucoup d'autres choses. Donc là, en l'occurrence, on vous propose un minestrone de légumes verts très léger, avec des ravioles. Donc vous prenez 240 g de ravioles du Dauphiné, bien froides, vous les découpez soigneusement en ne les abîmant pas et vous les remettez au frigo pour qu'elles restent bien froides. Vous préparez un pesto maison, bon, vous pouvez prendre un pesto en pot, mais c'est quand même beaucoup moins bon, qui consiste en gros à mixer un bouquet de persil, 2 gousses d'ail pelées, 50 g de parmesan, 50 g de pignon de pin, 8 cl d'huile d'olive, c'est facile. Ensuite, vous prenez 150 g de haricots verts, vous les équeutez uniquement d'un côté, c'est pas la peine de faire les deux bouts, mais non, on gagne du temps, et vous les coupez à peu près en 2 ou 3 morceaux selon leur longueur. Une tête de brocoli, pareil, vous récupérez, vous la rincez, vous récupérez les fleurettes, vous coupez la tige en plus petits morceaux. Et vous faites revenir un oignon jaune finement émincé dans une casserole avec un peu d'huile d'olive. Pendant 2 minutes. Ensuite, on y rajoute 1,5 litre de bouillon de légumes. Les légumes...
Donc, fait maison, évidemment.
Une nuit pleine lune, idéalement même. Vous rajoutez les légumes, c'est-à-dire donc le brocoli coupé en morceaux, les haricots verts et pourquoi pas un petit peu de pois doux gourmand ou même des damamé. Et vous laissez cuire 15 minutes.
Ensuite, les edamame, c'est quoi, rappelez-vous?
Les edamame, c'est ces petits haricots. Ça ressemble à des sortes de petits pois, mais un peu plus gros. C'est japonais et ça peut se manger. Ça se trouve tel quel maintenant, notamment chez. Alors, je ne donnerai pas de nom, mais surgelé en sachet.
Voilà, on a compris.
T'as vu, je me suis rattrapée. Hein. Et ensuite, on rajoute les ravioles, on laisse cuire 2 à 3 minutes, pas plus, et on sert ça très chaud avec le pesto et du poivre, et c'est excellent. Et vous allez vous coucher, le palais réjoui, l'estomac léger et en pleine forme pour le lendemain.
Une recette de minestrone de ravioles à retrouver dans le numéro de À la table actuellement en kiosque. Tout de suite, la chronique avec la langue de Julie Neveu. Hein, vous êtes prête? Allez!
L'aigle va fondre sur la vieille buse.
France Inter.
C'est chouette comme métaphore, non?
Grand bien vous fasse.
C'est pas une métaphore, c'est une périphrase.
Enfin, pas chier.
Ça, c'est une métaphore.
Alors, Julie Neveu, ce matin, on reste à Paris, mais on fait un voyage linguistique dans le temps.
Oui, Ali, on visite Paris-Babel. C'est le titre du dernier manifeste anti-puriste de Gilles Siouffi, historien du français, sous-titré Histoire linguistique d'une ville-monde. La question, c'est comment et quand le français s'est-il mis à ressembler à ce qu'on identifie comme du français aujourd'hui? Comment la capitale a-t-elle joué ce rôle d'uniformisation et de centralisation inouïe du français ? Et la réponse n'est pas simple, parce que Paris a de tout temps été traversé par toutes sortes de parlers qui la faisaient vivre, travailler, parce qu'on aime bien se raconter le début de l'histoire. Le français qui vient plutôt du latin, avec un peu de gaulois et de viking. Mais ce qu'on sait moins, c'est que le français, pendant des siècles, s'est frotté à toutes sortes d'autres langues. Française d'abord, au gré des populations qui allaient et venaient, construisaient la ville, ses ponts et son métro. Et puis aussi étrangère, bien sûr, l'italien au XVIe siècle, l'anglais, bien sûr, par vagues, le russe, début XXe, le polonais, l'allemand, l'espagnol, l'arabe, bref, Paris depuis toujours, brasse et embrasse les langues. C'est une vraie métisserie, nous dit Gilles Siouffi.
Métisserie, c'est joli.
Métisserie. Alors, comme on n'a que 3 minutes, je me concentre sur les variétés de français. Au Moyen-Âge, par exemple, Paris est plutôt bilingue latin-français, avec un français qui se met à se distinguer doucement du picard, parlé au nord et encore très influent. Alors, à quoi ressemblait à ce moment-là le picard ? C'est évidemment très dur de le savoir, mais on peut se donner une idée grâce à un atlas sonore du SNRS qui est sorti il n'y a pas longtemps, en cliquant, par exemple, sur la ville de Bailleul au Cornaille. Écoutez bien, le texte est le début d'une fable d'Ésope. Je vous lis le texte en français standard. Donc, la bise et le soleil se disputaient, chacun assurant qu'il était le plus fort, quand ils ont vu un voyageur qui s'avançait, enveloppé dans son manteau.
Elle bise, puis est soleil, se questionnèrent, à chacun assuré qu'il est au et je plus futeux. Au moment là, ils arrivaient un voyageur qui s'avanchait avec sa plus sur son dos.
Alors, je saute quelques siècles. Qu'est-ce qu'il y a, Ali ?
Non, je vais faire l'émission comme ça, désormais.
Eh bien, exactement. Ça vous ferait le plus grand bien, Picard. Je saute quelques siècles. Ouais. Le 17e, où l'Académie française et le pouvoir royal travaillent à normer le français pour en faire un soft power. La Révolution française, avec le féroce et zélé abbé Grégoire qui fait la guerre aux langues régionales. Mais au 19e, si on se balade dans les rues de Paris, en été notamment, on entend, par exemple, du savoyard, avec ces jeunes montagnards qui viennent ramonner les cheminées. Puis finissent par s'installer et assimilent très vite le français standard. Ce dont se réjouit en 1834 la Revue des Deux Mondes, qui est un peu le Figaro langue de l'époque en fait. Je cite « Le progrès du langage qui correspond à celui des mœurs et qui en est l'indice témoigne de leur supériorité. » Alors supériorité des Savoyards sur les Auvergnats par exemple, qui eux font d'autres petits métiers ingrats, porteurs d'eau, charretiers, commerce de bois et de charbon, et que les Parisiens appellent parfois « charabia ». On écoute une variété auvergnate enregistrée par l'équipe du CNRS, cette fois-ci à Bessac.
L'ouvain de Denon est le chouler chez Brésavem. Sacune en fortition est chez le Meifort. Quand est vigueurin, une vouilleuse au dour, l'homme, que veignant, plaisant d'y monter.
Même le français de Paris varie. Au début du XXe, par exemple, où la ville était organisée par quartier, par métier, on parle le parisien de la Villette ou de Montmartre ou du XIVe, et on est capable de se reconnaître entre soi. On écoute un son génial de 1912, où un tapissier du XIVe siècle... Oh, pardon,
un tapissier du XIVe arrondissement.
Formidable. Il est très âgé, qui vient de se faire enregistrer par le linguiste Ferdinand Bruno, réagit à sa propre voix qu'il découvre à cette occasion.
Dans un salon. XIVe siècle.
C'est très drôle. Il me semble même que c'est extraordinaire. J'ai une voix aussi drainarde. Jamais je l'aurais cru. Vous savez, on ne s'entend pas absolument. Mais alors là, vous savez, il y a un accent absolument presque de la vue, là, comme je dirais.
Eh oui, Ali, voilà, je suis nostalgique de ce que je n'ai pas connu. Alors en sortant, je vais traîner dans les rues et me plonger dans ce que Gilles Siouffi appelle les mini-Babels. Belleville est le 13e et ses langues d'Asie, mandarin ou tétio, l'arabe près de Barbès et les langues africaines, soninké, bambara, wolof ou sérère, et près de chez moi, à la chapelle du tamoul venu d'Inde du Sud. Et même si je ne suis pas capable de les reconnaître, je me dirais que Paris et le français ont bien de la chance d'être encore au contact des autres dans le tourbillon des langues.
Avec la langue de Julie Neveu à podcaster sur l'appli Radio France, à propos de langues, sachez que Radio France sera très présent au Grand Palais lors du Festival du Livre de Paris. Vous retrouverez des tas d'auteurs maison comme Daniel Fievé, Pierre-Judé de la Combe ou encore François-Régis Gaudry.
Ou encore Ali Rebéi, me semble-t-il. Peut-être pour un deuxième volume de Meurtre Tantalise.
À 15h tout à l'heure.
À 15h. Bon, vous allez peut-être m'apercevoir, c'est possible.
À tout à l'heure au Salon du Livre, au Festival du Livre de Paris. Et c'est ainsi que s'achève Grand Bien Vous Fasse Week-end. Merci aux amis du vendredi, Julie, Guillemette, Thibault, Daniel et Christina. Merci David Habitant de Théma.archi, Sandrine Mercier de la revue AR. Merci Adeline Baldacchino. Je vous laisse retourner à la Cour des Comptes. Et merci Yann Chouquet. Le podcast Partir est à télécharger sur l'appli Radio France. Tout au long de la semaine, l'émission a été préparée par Nathalie Romero, Lisiane Larbani et Cyrine Bagnonès, avec l'aide d'Antoine Poitras, à la réalisation Claire Destacan, à la programmation musicale Valentine Chedebois. Demain, je vous retrouve à 9h30 sur France 2 dans l'émission Bel et Bien avec Agathe Le Caron. Et lundi, comment vit une personne bipolaire? Nous recevrons Nicolas Demorand qui nous dira ce qu'a changé pour lui depuis qu'il a révélé sa maladie mentale, comme il le dit. Nous verrons précisément ce qu'est la bipolarité et nous verrons également quels sont les liens entre le microbiote intestinal et la bipolarité.